Le débat du jour, Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. Ils sont majoritaires à l'Assemblée territoriale, ils dirigent la collectivité de Corse et ils étaient plusieurs milliers samedi à Ajaccio. Le message des indépendantistes et des autonomistes, des nationalistes corses est clair. La lutte armée s'est terminée et maintenant la question corse doit être discutée avec l'État français et de préférence avec son chef, le président de la République, qui arrive d'ailleurs justement demain sur l'île pour commémorer les 20 ans de l'assassinat du préfet Claude Erignac. Des rencontres avec les leaders corses sont prévues, ainsi qu'un discours qui devrait permettre à Emmanuel Macron de préciser sa pensée. Faut-il reconnaître une spécificité corse? C'est la question du jour. Et pour tenter d'y répondre, deux invités nous ont rejoints dans ce studio. Michel Verger-Franceschi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien, auteur de « Une histoire de l'identité corse des origines à nos jours », c'est aux éditions Payot. Et Yves Pozzo di Borgo, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes conseiller de Paris, ancien sénateur de Paris. Vous êtes également vice-président de l'UDI, le parti centriste présidé par Jean-Christophe Lagarde. La Corse est française officiellement depuis 1769. Elle est un département français, puis deux, puis une collectivité unique depuis la création en 1790 des départements, mais toujours dans le cadre administratif national français. Elle a donné à la France des hommes d'État dont certains particulièrement illustres, comme Napoléon. Elle fait donc partie intégrante de l'identité française, mais elle a aussi son caractère particulier, ce particularisme, cette identité, cette insularité corse sont à l'origine de mouvements indépendantistes ou autonomistes qui ont traversé toute l'histoire de l'île, mais qui s'affirment particulièrement de manière parfois violente depuis les années 70. Une question pour commencer, parce qu'on l'a dit, ça fera 20 ans demain que le préfet Erignac a été assassiné et que donc la question reste sensible. La lutte armée des indépendantistes corses s'est arrêtée officiellement en 2014, c'est-à-dire il y a à peine 4 ans. Est-ce que c'est définitivement terminé ou est-ce que le feu couve toujours sous la cendre? Michel Verger-Franceschi.
Ah ben, je suis historien, je suis pas devin. Donc, c'est difficile de répondre à cette question. La particularité corse, je crois que n'importe quel homme intelligent qui débarque en Corse, ce qui est le cas du président Macron, d'abord, il arrive à Ajaccio, dans un aéroport qui s'appelle l'aéroport Napoléon Bonaparte, qui est le personnage le plus connu de l'histoire de l'humanité partout, après le Christ. Comme il n'y a pas d'aéroport qui s'appelle Jésus-Christ, je pense qu'il arrive dans un aéroport qui est le plus connu au monde par son nom. Il a une épouse qui est professeure de lycée, qui a dû dire à son mari, avant de partir en Corse, heureusement que Napoléon a créé les lycées, parce que sinon je ne sais pas ce que j'aurais fait pendant toute ma carrière. S'il regarde sa boutonnière, en descendant donc de la passerelle, il va dire, tiens, j'ai la Légion d'honneur, heureusement qu'il y a un gamin qui est né dans cette ville le 15 août 1769 pour la créer. Et puis il va se dire, je suis le 22e ou 23e président de la République, je ne sais pas. Eh bien le premier est un Bonaparte, c'était Louis-Napoléon Bonaparte en 1848.
Alors, Yves Pozzo di Borgo, c'est vrai que l'influence corse dans la culture française est énorme et il y a cette particularité corse quand même qui continue.
Et moi je continuerai dans la même veine en disant que Napoléon Bonaparte a porté le jacobinisme et les Corses en supportent les conséquences. Nous sommes un pays européen et dans beaucoup de pays européens, je prends juste l'Allemagne, l'Autriche, l'Italie, il y a ce qu'on appelle un fédéralisme où les régions sont autonomes, il y en a 5 en Italie, où les Länder allemands sont très autonomes. Et en France, nous avons toujours une culture très jacobine, une constitution très jacobine, et c'est quand même Bonaparte qui nous l'a porté tout cela. Et une grande partie d'ailleurs des problèmes que ressent la Corse, que ressent les nationalistes ou ceux qui dirigent actuellement la collectivité territoriale corse, c'est justement cette pesanteur et cette tradition jacobine française qui est un élément de non-évolution démocratique, et c'est un peu ma thèse personnelle.
Alors, pendant sa campagne électorale, Emmanuel Macron a défendu une espèce de nouveau pacte jacobin. Il n'a pas été très loin dans ses explications. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, vous qui êtes historien?
Oui, allez, il faut du les jacobinisme, le jacobin, en même temps, s'est conforté en France.
Nous en puis de. Pacte girondin, j'ai dit jacobin.
Non, mais justement, je conforte ça, parce que le pacte jacobin, vous savez que sur les 7 présidents de la République, il y a eu 3 énarques. L'énarque étant l'opérationnel des jacobins. Sur les 24 premiers ministres, il y a eu 12 énarques. Et ce qui dirige en France, vous voyez ce que c'est? Ce sont les directeurs de cabinet. Et quand vous prenez les 800 ou 1000 directeurs de cabinet qui ont commencé depuis 58, vous n'avez pratiquement que des énarques. L'ENA étant l'énarchie, étant l'émanation même du jacobinisme. Et vous avez ces deux responsables nationalistes qui sont élus par le peuple corse et qui arrive à Paris, qui tombe sur un président qui est énarque, sur un premier ministre qui est énarque, et j'allais dire aussi, puisque c'était mon collègue du Sénat, le président Larcher, qui lui, évidemment, est chargé de faire respecter la Constitution, mais qui n'est plus centriste comme l'était à l'époque le Sénat. C'est un gaulliste de tradition et donc jacobin.
Et il n'est pas énarque, il est vétérinaire.
Et il est vétérinaire.
Absolument.
Michel, d'ailleurs, cette bonhomie qui est très agréable, qui Michel, permet de faire passer la jacobine.
Michel Verger et Franceschi, vous qui êtes historien, un pacte girondin, ça peut être quoi exactement?
Ah ben la Corse espérait ce pacte girondin le jour où Pascal Paoli a débarqué en Corse le 14 juillet 1790. Ça n'est pas un hasard, c'est le jour de la fête de la Fédération nationale. C'est un jour qui n'est pas sanglant, à la différence du 14 juillet 89. Et donc il s'est réjoui à ce moment-là de l'union de son île natale avec la libre nation française. Au sens, effectivement, où Yves Pozzo-Diborg l'entend à l'instant, c'est-à-dire au sens du girondinisme, avec une France qui est une sorte de fédération d'un ancien duché de Provence, d'un ancien comté de Provence, un ancien duché de Bretagne, etc. Et donc, à partir de Napoléon, eh bien, il y a une concentration des pouvoirs, et Napoléon a continué ce que François Ier avait fait en créant le Collège de France, a continué ce que Louis XIV avait fait ensuite, et donc, il y a une sorte d'absolutisme dont la France d'aujourd'hui, effectivement, est l'héritière et qu'elle supporte de moins en moins bien dans toutes les régions du reste. Le Pays Basque, la Bretagne, toutes les régions, y compris la région natale de la mère de Gilles Siméon, qui est l'Alsace. Et donc, je précise ceci parce qu'on regarde toujours un petit peu les Corses de haut, comme si on avait passé nos enfances au milieu des mouflons sauvages dans les forêts. Or, Emmanuel Macron va avoir en face de lui deux avocats qui sortent de l'université d'Aix-en-Provence tous les deux, notamment parce qu'il est Talamone a fait toutes ses études à Aix et Siméon les a commencées à Corté ou inversement. Ce sont des gens très ouverts. Talamone, il a une mère libraire, un père instituteur de la République. On parlait autrefois des hussards noirs de la République. Et donc, ce sont des gens qui appartiennent à un milieu cultivé. Ils n'ont pas dû voir beaucoup de mouflons dans leur enfance, notamment Talamone qui est né à Saumur, comme moi qui suis né à Toulon, et Siméon avec une mère alsacienne et quelqu'un d'ouvert sur le cosmopolitisme européen.
Alors moi, je suis sûr que vous n'avez pas vu beaucoup de mouflons, ou pas uniquement, en tout cas dans toute votre vie, personne ne l'insinue. Il y a une question politique et constitutionnelle que vous avez effleurée. Est-ce qu'il faut reconnaître une spécificité corse explicitement différente de celle des autres régions? C'est une des revendications des indépendantistes, Yves Pozzo-Diborg.
Je pense pas, je pense qu'il faut...
Est-ce qu'il faut parler spécifiquement de la Corse dans la Constitution française?
Oh, ça pourrait se faire. Ça peut se faire d'ailleurs dans les articles 72, 74. Ça peut se faire aussi dans les articles concernant la Nouvelle-Calédonie. Il y a une possibilité. Si vous voulez, la Constitution, avec un peu d'imagination, on peut l'intégrer sans problème. Alors, c'est vrai que la conception jacobiniste, surtout pas. La République est une et indivisible. La langue, c'est le français. Même si l'article 72, 75-1 dit les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France. Bon, enfin, tout ça... Avec un peu d'imagination et de bonne volonté, on peut le faire. Et c'est vrai que c'est un peu ce qui s'est passé en Catalogne. En Catalogne, Rajoy a bloqué les choses. Moi, je le sais parce que j'avais rencontré les responsables de Catalogne avant qu'il y ait tous ces événements-là. Et nous avions un accord avec Rajoy. Et finalement, cet accord n'a pas été respecté. Donc, on sait qu'on va vers le massacre. Et c'est ce qui s'est passé. Et je crois qu'il faut être très attentif. N'oubliez pas qu'en plus, la Corse est voisine de l'Italie. Qu'en Italie, il y a 28 provinces, il y a vraiment un régime fédéral, qu'il y a 5 régions autonomes qui sont vraiment comme beaucoup d'indépendance. C'est quand même la Corse voisine. Vous avez les îles de Sardaigne, les îles de la Sicile, qui sont quand même côté de la Corse, et qui elles ont un statut d'autonomie beaucoup plus important que ceux que peut avoir la Corse. Donc je crois qu'il est important, surtout dans le domaine européen, je crois qu'il faut qu'on ait une vision européenne des choses. Il est tout à fait nécessaire d'avoir une autre vision que la vision jacobine. Et ça, c'est une vieille pesanteur que l'on porte en France, que le président de la République, l'émanation de ce jacobinisme, comme le Premier ministre ou comme le président du Sénat, qui lui-même est gaulliste de tradition jacobine, devrait peut-être comprendre qu'il y a une évolution nécessaire à faire dans ce pays.
Alors, on vient
d'en parler. Je ne sais pas sous quelle forme d'ailleurs.
On vient d'en parler. La Corse, elle a été génoise pendant longtemps, 4 siècles avant d'être française, elle a été génoise. Les velléités indépendantistes ou autonomistes corses, elles remontent à loin, Michel Verger-Franceschi?
La Corse est restée génoise très longtemps, et même plus longtemps que vous ne l'avez dit en introduction, parce qu'on commet cette erreur que je combats depuis 30 ans.
Allez-y, corrigez-moi.
Assez lu, visiblement, en disant que la Corse est devenue définitivement française en 1769. Et cette affirmation fait beaucoup de mal à la jeunesse corse, parce qu'on se dit, eh bien, 1769, on est corse parce qu'on a été pris par Louis XV, c'est la bataille de Pontenove qui a battu les troupes de Pascal Paoli le 8 mai 1769, et donc la jeunesse corse croit qu'elle est victime de la France depuis le 9 mai, donc le lendemain, on serait français. Or, vous avez toute une période où la Corse n'est pas française, qui va du traité de 1768 au décret du 30 novembre 1789. Et par conséquent, la Corse est française parce que les 6 députés de Corse qui sont arrivés à l'Assemblée constituante parce qu'ils étaient en retard pour arriver aux États généraux, Louis XVI les ayant convoqués trop tard, le décret du 30 novembre 89 donc dit que la Corse fait partie intégrante de l'Empire français. À la demande des 6 députés corses qui ont fait cette demande auprès de Mirabeau, qui était d'arrière-grand-mère corse et qui parlait le corse et que l'on appelait le comte de Casinca et qui était originaire d'un petit village du Cap Corse qui est Morsiglia. Et donc, nous avons été conquis par la monarchie. La monarchie a fermé l'université de Corte. La République l'a réouverte. Et donc, moi, je tiens toujours beaucoup à dire que je vois dans la presse beaucoup de Corses, et on l'a vu encore pour la marche du 3 février dernier, oui. Voilà. Eh bien, on dit la France a massacré dans le Nioul une quinzaine à peu près de malheureux Corses qui ont été pendus par des officiers français. Moi, je dis par des officiers du roi, et la République n'a jamais massacré les Corses après 1789.
Alors, parce que Yves Pozzo-Diborg, les Corses, il y a des velléités autonomistes depuis longtemps. Il avait déclaré son indépendance pendant quelques années entre la République de Gênes et son appartenance,
oui,
à la France.
Pendant 14 ans.
Mais,
elle était aussi anglaise.
Elle était anglaise 2 ans.
Et la Corse, donc, eh bien, les Corses sont en fait profondément républicains depuis l'époque.
Bien sûr. N'oubliez pas qu'en 14, une génération entière de Corses sont morts pour la France. 14-18 a été terrible pour la Corse. C'était une île dynamique.
Républicain et patriote, j'allais dire.
Bien sûr, oui, mais pour savoir le nombre de morts, je crois que c'est peut-être la région, oui, qui a eu le plus de morts opposés.
13 000 morts, ouais, sur 65 000 hommes.
Je ne sais pas si vous imaginez ce que c'était. C'était vraiment terrible. Et les Corses l'ont fait pour la France. Hein. Oui. Donc je crois que le problème n'est pas cela. Je crois que le problème, c'est que c'est vrai que le jacobinisme français, d'après moi, est un peu en retard par rapport à la conception des démocraties européennes, américaines d'ailleurs. Et c'est vrai qu'on est resté dans un vieux jacobinisme qui date malheureusement d'un Corse, et qui, oui, est Napoléon Bonaparte.
Et avant Napoléon, tous les souverains français parlaient à leur peuple au pluriel. Voilà. Louis XIV disait « mes peuples » parce qu'il était comte de Provence, duc de Bretagne, il était comte de Fort-Calquier. Et Napoléon dit dans son testament « je veux être inhumé près de ce peuple au singulier » que j'ai tant aimé au bord de la Seine.
Si pour terminer, je pourrais dire que les Corses sont les ferments d'une révolution culturelle française, parce qu'il faudrait que les Français, ou de moins ceux qui dirigent la France, deviennent moins jacobins et plus fédéralistes.
Alors, vous le dites et vous le répétez avec le sourire, Yves Pozzo-Diborgo, depuis le début de cette émission, mais néanmoins, la France, elle est jacobine.
Elle est jacobine.
C'est comme ça.
Et donc,
il faut que chacun discute, se rapproche un petit peu des points de vue. Alors, parmi les sujets qui fâchent, et je suis obligé d'en parler, il y a la violence, violence politique, la violence des nationalistes corses jusque dans les années 2014. Est-ce que ça, est-ce que ça c'est vraiment terminé ou est-ce que c'est toujours dessous?
Comme mon collègue, je dirais, je suis pas devin, mais alors vraiment là, j'étais profondément choqué par ce qui s'est passé à la mort du préfet Rignac. C'est la première fois d'ailleurs que la Corse entière a manifesté, je ne sais pas si vous vous souvenez. Jamais on a eu une manifestation importante. Ça avait choqué les Corses, la mort du préfet. Pour vous dire que la violence n'est pas si acceptée que ça en Corse. Elle a eu lieu, on est obligé de la constater. J'espère que ça va s'arrêter. On a l'impression, là, je vois les deux responsables nationalistes qui disent nous discutons, malgré la petite humiliation qu'ils ont subie en venant à Paris, mais je crois, j'espère, parce qu'il y a quand même une grande intelligence actuellement dans ce qui se passe, j'espère que le nationalisme ne doit pas reprendre ce qu'on appelait les armes. Parce que il y a une volonté de débat, il y a une volonté de décrispation des choses. On a un président de la République, même s'il est très jacobin, qui est quand même quelqu'un qui sait discuter, qui discute avec le sourire, et ce sont des choses importantes. Si vous voulez en Corse, on aime bien que les gens sourient, on aime bien que les gens vous respectent, et c'est peut-être ce qui, moi, d'après moi, évitera peut-être ce retour ça serait un drame fantastique, le retour de ce qui s'est passé des années précédentes.
Alors, un des corollaires de ces années de violence hein, du FLNC de l'époque, c'est la question de ce que les autonomistes, indépendantistes, nationalistes, c'est des chapelles un petit peu différentes, mais on va dire ça comme ça, appellent les prisonniers politiques. C'est un terme récusé par l'État français, complètement, parce que la France étant une démocratie, il ne peut pas y avoir de prisonniers politiques.
Moi, je t'en ai pensé ça, oui.
Est-ce qu'il faut...
Parce que l'État a raison, là. Autant je suis devenu jacobin dans ce concept-là. Il n'y a pas de prisonniers politiques. Parce que reconnaître qu'il y a des prisonniers politiques, c'est reconnaître la violence. Et je crois que ça, c'est une mauvaise chose. Autant oui. Je suis quelqu'un qui peut dire, on est trop jacobin, il faut qu'on soit plus fédéraliste, autant il est nécessaire qu'il y ait un peu plus d'autonomie. Mais reconnaître qu'il y a eu des prisonniers politiques, ça veut dire qu'on reconnaît la violence.
Et j'emploie toujours régulièrement une expression que l'on retrouve de plus en plus dans la presse, c'est-à-dire les prisonniers dits politiques.
Voilà.
Donc je voudrais ajouter quand même un mot. À la Chambre, le 5 avril 1850, vous avez un député qui a dit « On combine le climat, à propos des prisonniers qui étaient loin de chez eux, l'exil et la prison. Le climat donne sa malignité, l'exil son accablement, la prison son désespoir. Au lieu d'un bourreau, on en a trois. » Et donc, cet écrivain était Victor Hugo. Donc, entre la qualification de prisonnier politique, je suis contre, parce que c'est un délit d'opinion, prisonnier pour des raisons politiques, bon, cela peut se concevoir. Et la deuxième question, c'est le rapprochement. Et il est évident que, au niveau de l'égalité de la République, une femme, une mère et les enfants d'un prisonnier doivent pouvoir aller le voir dans un environnement plus proche et moins coûteux de chez eux.
Le rapprochement géographique, Yves Pozzo di Borgo, ça devrait pouvoir se faire. Je crois qu'il est question de régler la question au coup par coup.
Bien sûr. Mais il y a une gestion d'ailleurs du ministère de la Justice, de la direction pénitentiaire. C'est des gens intelligents et qui savent faire ce genre de choses. Donc moi, je crois qu'il faut là-dessus, on ne doit pas avoir déception, ça va se faire et ça se fera naturellement.
Alors, il y a une question économique aussi dans ces rapports entre la France et la Corse. L'insularité, bah, ça coûte cher. Et la Corse a besoin des moyens de l'État français pour continuer à avoir des échanges avec le continent. Donc, il y a là aussi, ça peut être un élément de négociation, Yves Pozzo di Borgo.
Oui, c'est toujours le vieux débat en disant les Corses ne pourraient pas être autonomistes parce qu'il faut payer des bateaux, il faut payer des avions. D'accord.
Non, je pose la question.
Vous avez d'autres îles qui sont des petites îles qui se dépendent très bien. La Corse a une richesse touristique, la Corse a des gens intelligents, la Corse peut créer des emplois, la Corse peut... Enfin, il y a 1000 choses si vous voulez de pouvoir gagner de l'argent. Il suffirait d'ailleurs que ça devienne un port franc pour qu'on n'ait plus de problèmes financiers. Donc je veux dire, tout est possible. Donc ce genre de raisonnement, moi je sais pas que je le recule, je dis mais c'est pas un élément du débat. Enfin voilà, c'est ma thèse. Et c'est tout à fait normal en plus de ça que puisque la Corse est française, même si elle devrait avoir un peu plus d'autonomie, ou l'Inde d'ailleurs, hein, puisque le texte de 2002 permet à la collectivité territoriale corse de prendre les règlements ou les lois françaises et de les adapter. N'oubliez pas, le texte de 2002, déjà, il y a une autonomie quand même qui est forte. Hein. C'est Gérard Larcher qui le rappelait, il avait raison.
Michel Verger-Franceschi, l'autonomie, historiquement, est-ce que c'est... On n'a plus beaucoup de temps, hein, je vous le dis tout de suite. L'autonomie, est-ce que c'est un chemin vers l'indépendance? Est-ce que c'est une étape?
J'espère que non. Personnellement, c'est une opinion tout à fait personnelle. Il y a quand même une matière première qui est très très importante dans l'île, c'est la matière grise. Et donc, nous avons énormément de gens intelligents. On va à Marseille, on trouve des médecins extrêmement qualifiés. Edmond Siméon était un très bon gastro-entérologue, d'ailleurs, à Marseille. Des pavillons à la Timone portent le nom de professeurs corses comme Charles Mattei, l'un des plus grands pneumologues. Le nombre d'avocats à Paris, qui n'ont pas tous laissé leur statut à la conciergerie, comme Moreau Diafer, est très important. Donc la matière grise permet d'espérer.
Merci à vous, messieurs. Merci Yves Pozzo di Borgo. Merci Michel Verger-Franceschi d'avoir participé à cette émission. Merci à toute l'équipe du débat du jour. Florence Ponce à la coordination, Simon Carteret à la documentation et à la réalisation aujourd'hui, Valentin Vaner. Vous pouvez nous retrouver et nous podcaster sur le site internet de RFI. Prochain débat demain, même heure, même endroit. Bonjour chez vous.